Chapitre 12. C'était le 3 novembre, mais l'automne était beau. En nous hâtant, nous pouvions espérer d'arriver à Paris avant le mauvais temps. Notre plan, longuement discuté, avait été définitivement arrêté ainsi. Comme je n'étais pas surveillé, je sortirais le premier de la baraque en portant tout le bagage, c'est-à-dire la provision de croûte, la couverture, une bouteille, mes souliers de rechange, un petit paquet de linge qui avait été caché dans ma caisse par Diélette, une casserole de fer blanc, enfin, tout un déménagement. Puis, quand les époux Lapolade seraient endormis, Diélette se lèverait, s'échapperait de la voiture et viendrait me rejoindre près d'un arbre que nous avions marqué sur le boulevard. J'y arrivai comme 11 heures sonnaient. Diélette m'y rejoignit à minuit seulement. Je commençais à désespérer, et je craignais qu'elle n'eût été surprise, quand j'entendis son pas léger sur la terre du boulevard. Elle coupa une bande de lumière, et je reconnus la cape rouge qui lui servait à s'envelopper lorsque, sortant de la représentation, elle venait assister à la parade. « J'ai cru que je ne m'échapperais jamais, » dit-elle en haletant. La Pelade gémissait comme un phoque. Il ne voulait pas s'endormir. Et puis, j'ai été dire adieu à Mouton. Pauvre Mouton, c'est lui qui va avoir du chagrin. As-tu bien tout ? Ce n'était pas le moment de nous livrer à un inventaire. Je lui dis qu'on pouvait nous surprendre et qu'il fallait nous hâter de gagner la campagne. « Bon, dit-elle, partons. Mais avant, donne-moi ta main. Pourquoi faire ? Pour que tu la mettes dans la mienne et que nous jurions tous deux que c'est à la vie et à la mort. Veux-tu jurer ça ? Je veux bien. Alors donne-moi ta main, et dis comme moi, nous nous aiderons à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Elle me serra la main, et je me sentis tout ému de l'accent vibrant avec lequel elle prononça cette formule. Il régnait dans la ville déserte un silence mystérieux, troublé seulement par le jet d'une fontaine qui coulait avec de petits clapotements dans le ruisseau, et aussi par la plainte des réverbères qui, sous le souffle du vent, criaient au bout de leurs chaînes de fer. Leur balancement faisait de grandes ombres changeantes sur le pavé de la rue. « Maintenant, marchons, » dit-elle en prenant les devants. Nous ne tardâmes pas à sortir de la ville et à nous trouver dans les champs. Tout en la suivant, je l'examinais curieusement. Il me semblait qu'elle avait le bras gauche arrondi, comme si, sous sa cape, elle portait quelque chose. Puisque j'avais tout le bagage, qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Je le lui demandai. « C'est mon réséda, » dit-elle en ouvrant sa cape. Et j'aperçus un petit pot coiffé d'un papier doré. Elle avait toujours cultivé cette fleur qui occupait un des vasistas de la voiture et pour laquelle je lui avais vu plus d'une fois des exigences tyranniques qui exaspéraient la Pelade. « Comment veux-tu que nous portions ça ? » dis-je assez contrarié de cette surcharge nouvelle. « Fallait-il l'abandonner ? Elle serait morte ? C'est bien assez de moutons. « Pauvre mouton, tu ne sais pas que tout à l'heure, j'ai eu envie de l'emmener ?» Comme il me regardait, bien sûr, il se doutait de quelque chose. Emmener mouton était une idée qui me parut extrêmement drôle. À la laisse, probablement, comme un chien, je ne pus m'empêcher de sourire. Diélette voulut faire le partage des bagages, et j'eus bien du mal à en prendre plus qu'elle. Sans être froide, la nuit était fraîche. Le ciel était criblé d'étoiles scintillantes sur un fond d'un bleu grisâtre. Tout dormait dans la plaine. Les arbres se tenaient raides et immobiles, sans un bruissement ou un murmure. Et nous n'entendions aucun de ces bruits d'oiseaux ou d'insectes qui font vivantes les nuits d'été. Seulement, de temps en temps, quand nous passions devant une habitation, les chiens nous poursuivaient de leurs jappements. Leurs voix éveillaient d'autres voix dans le voisinage et leurs aboiements allaient se perdant dans l'obscurité silencieuse comme le cri des sentinelles qui s'avertissent et se répondent. Afin de nous mettre à l'abri des poursuites, si la Pollarde voulait en entreprendre, nous devions marcher toute la nuit. J'avais craint que Diélette ne pût pas me suivre, mais elle ne parla pas de fatigue avant le matin. Nous avions traversé beaucoup de villages endormis, et les bornes de la route nous disaient que nous étions à 5 lieues de Blois. Une lueur jaune montait au ciel devant nous. Les coqs réveillés s'appelaient d'un poulailler à l'autre. Dans la maison, on commençait à apercevoir des lumières derrière les volets. Bientôt, nous fûmes croisés par des chevaux et des charretiers qui, d'un pas lent, se rendaient au labourage. « Maintenant, dit Diélette, reposons-nous, je n'ai plus peur. »
« Tu as donc eu peur ?»«
Je crois bien, depuis Blois. »«
De quoi ?»«
Du silence. Je n'aime pas ça, la nuit. Et puis, les ombres s'allongent et se rapetissent. Ça vous fait galoper et arrêter le cœur. »
Le jour se leva pendant que nous déjeunions avec mes croûtes. Un jour gris et humide. Il nous montra une grande plaine dénudée à perte de vue, où, dans des bouquets d'arbres, s'élevaient des maisons, au-dessus desquelles montaient doucement des colonnes de fumée jaune. Des terres fraîchement remuées succédaient à des sillons de chaume. Nulle part on ne voyait de verdure. Des troupes de corbeaux traversaient lourdement le ciel et se divisaient en petites bandes pour s'abattre autour des charrues et des herses qui, çà et là, travaillaient dans les champs. Nous nous remîmes bientôt en marche et nous fîmes encore 2 lieues. Mais alors la fatigue commença à nous alourdir. Diélette tombait de sommeil. Elle était si lasse qu'elle dormit 5 heures sans s'éveiller. Ma grande inquiétude dans ce voyage était de savoir comment nous passerions la nuit. J'avais l'expérience du coucher à la belle étoile, et je n'étais pas tranquille en pensant au froid de cette saison. Aussi, lorsque nous reprîmes notre chemin, il fut décidé que, sans avoir égard à la distance, longue ou courte, nous ne devions nous arrêter que quand nous aurions trouvé un bon endroit bien abrité. Nous le rencontrâmes au pied du mur d'un parc où le vent avait amoncelé un gros tas de feuilles sèches. Comme il était à peine 4 heures lorsque nous fîmes cette découverte, j'eus tout le temps avant la nuit pour préparer notre lit. Je ramassai dans le bois plusieurs brassées de feuilles mortes et je les ajoutai à celles qui étaient contre le mur. Je les tassai bien et, au-dessus, j'appuyai dans les fentes des pierres des branches que je fixai solidement en les enfonçant dans la terre. Cela formait des espèces de chevrons sur lesquels j'étendis la couverture. Nous avions donc un lit et un toit. Diélette se montra très satisfaite de cette construction. C'était très drôle, une chaumière dans les bois. Ça ressemblait au petit pousset. Ah, si elle avait eu du beurre, elle aurait trempé la soupe. Elle n'avait pas peur. Cependant, lorsqu'après notre dîner, qui fut comme notre déjeuner composé de croûtes, le soir commença à tomber, lorsque la lueur rouge restée au couchant s'éteignit, lorsque les oiseaux perchés dans les sapins feuillus ne firent plus entendre leurs cris, lorsque l'ombre emplit le bois, elle me parut moins rassurée.
« As-tu sommeil ?» me demanda-t-elle.
« Non. »
« Eh bien, si tu veux, ne dors que quand je serai endormi. J'aurai moins peur. »
Nous n'étions pas trop mal abrités sous notre couverture. Cependant, par les trous qui étaient nombreux, on voyait les étoiles briller au ciel, et bien que tout fût endormi dans la nature, on entendait de petits bruits inexplicables qui nous avertissaient que nous n'étions pas dans une maison. Assez longtemps, Diélette se retourna avec agitation. Mais enfin, la fatigue l'emporta, elle s'endormit. Très heureux d'être libéré de ma surveillance, je fis comme elle. J'avais eu raison de craindre le froid.
Avant le matin, il nous réveilla.
« As-tu froid ?» me demanda Diélette lorsqu'elle me sentit remuée. « Moi, je suis glacée. »
Il n'y avait rien à faire. Nous avions épuisé toutes les précautions. Il fallait nous rendormir en attendant le jour. Pour moi, ce me fut impossible. J'étais transi. Et malgré tous mes efforts pour m'en empêcher, je tremblais de tout mon corps. J'entendais aussi autour de nous un bruit qui m'inquiétait. Sur la terre, les feuilles craquaient comme si des milliers d'insectes les eussent piétinées.
« Entends-tu ?» demanda Diélette à voix basse.
Malgré mon envie de la rassurer, il n'y avait pas moyen de répondre « non ». Et d'ailleurs, je commençais à n'être pas très rassuré moi-même. Je voulais être brave parce que j'avais à protéger ma camarade. Seul, je me serais probablement sauvé. Pendant plus d'une demi-heure, nous restâmes sans oser remuer. J'entendais les dents de Diélette claquer. Notre lit de feuilles était agité par notre tremblement. Et au dehors, toujours ce même craquement. Cette continuité et cette égalité dans le bruit finirent par me rendre un peu de cœur. S'il avait été produit par quelqu'un ou par un animal, il aurait varié. Il fallait voir. Je soulevai un peu la couverture. La blanche lumière de la lune qui tombait d'un ciel étoilé me montra qu'autour de nous, tout était dans le même état. Enhardi, je posai la main sur les feuilles afin de me pencher au dehors et de voir plus loin. Les feuilles craquèrent. Elles étaient roides et prises en une couche compacte. C'était la gelée. Cela nous rassura, mais ne nous réchauffa pas. Au contraire, de savoir qu'il gelait, cela nous refroidit encore. Tout à coup, j'entendis Diélette se lever.
« Qu'as-tu ?»« Mon Réséda, mon Réséda, il va geler et mourir !»
Elle le prit dans ses bras et le cacha sous sa cape pour le réchauffer. Quelle heure était-il ? Étions-nous au matin ou seulement dans la nuit ? La lune s'était abaissée, mais je ne savais pas l'heure de son coucher. Il devint bientôt impossible de rester sous notre abri. Bien que nous fussions accroupis et serrés l'un contre l'autre, nous grelottions au point de pouvoir à peine parler. Nous décidâmes de nous remettre en route. Au moins, en marchant, nous pourrions nous réchauffer. Il fallut replier le campement et le recharger sur notre dos. Mais une difficulté se présenta. Diélette voulut abriter son Réséda et elle ne trouva rien de mieux que de le tenir sous son manteau, ce qui, en lui paralysant le bras, était peu commode. Je proposai d'abandonner la plante, mais elle me répondit avec colère que je n'avais pas de cœur, et je n'osais pas insister. Nous revoici donc sur la grande route la nuit par la gelée. Le voyage s'annonçait mal, cependant je n'osais pas faire part à Diélette de mes craintes. Elle cheminait courageusement, et toujours elle avait quelques paroles gaies qui me faisaient du bien. Après une heure de marche dans la campagne, nous entendîmes les coqs chanter, et cela nous fit rire de penser qu'il allait bientôt être jour. Nous étions réchauffés, et nous nous racontions, en nous moquant mutuellement l'un de l'autre, nos frayeurs de la nuit. Nous nous disputâmes un peu, et enfin il fut accordé que j'étais plus brave qu'elle, mais qu'elle était moins bête que moi. De peur d'être poursuivi sur la route de Paris où la Pollade devait nous chercher s'il nous cherchait, nous avions pris celle qui, de Blois, va à Chartres. Ce n'était, d'après mes études sur la carte, qu'un détour insignifiant. Ce soir-là, nous dépassâmes Châteaudun. La journée avait été chaude, mais le soir se rafraîchit, et nous prîmes le parti de demander à coucher dans une auberge. C'était se lancer dans une dépense considérable. Cependant, cela valait mieux que de mourir de froid. « Quand nous n'aurons plus d'argent, » dit Diélette, « je chanterai dans les villages et nous en gagnerons. » Elle dit cela bravement, comme une petite personne si parfaitement sûre de son affaire que sa confiance passa en moi. Mais il n'est pas si facile que cela de gagner de l'argent en chantant. Nous devions bientôt l'apprendre, et aussi comment il se dépense. À 2 lieues de Châteaudun, on voulut bien nous recevoir dans une auberge, et l'on nous demanda 40 sous pour notre nuit. Encore fallut-il dire, par-dessus le marché, qui nous étions, où nous allions. Heureusement que j'avais une histoire préparée à ce sujet. Nous allions à Chartres retenir une place pour notre caravane qui nous suivait de près et qui passerait le lendemain ou le surlendemain. Mentir n'allait ni à Diélette ni à moi. C'était une utile nécessité qui nous humiliait. De Châteaudun à Chartres, la route coupe de grandes plaines nues où l'on aperçoit seulement de loin en loin quelques villages au milieu des champs. Mais sur la route elle-même, il n'y a pour ainsi dire pas de maison. En arrivant à Bonneval, qui est un gros bourg, nous crûmes que nous allions faire fortune. Mais on ne nous donna que 3 sous. Je ne compte pas comme générosité une potée d'eau que nous jeta sur la tête un monsieur qui faisait sa barbe, ni la poursuite d'un chien qu'un boucher lança contre nous et qui déchira la jupe de Diélette. Tout n'est pas bénéfice dans le métier de chanteur. Si j'avais un loup, dit Diélette, et toi une flûte, nous gagnerions de l'argent. C'est drôle qu'on ne veuille donner qu'à ceux qui ont quelque chose. Diélette avait un incroyable esprit de patience. Elle ne s'irritait ni contre ses déconvenus, ni contre les méchancetés. Par bonheur, le soir nous n'eûmes pas d'auberge à payer. On nous reçut dans une ferme et l'on nous mit coucher dans une bergerie où les moutons entretenaient une bonne chaleur qui fit de cette nuit la meilleure de notre voyage. Le lendemain, au moment où nous repartions, la fermière montait en voiture pour aller au marché de Chartres. Elle eut pitié de l'air fatigué de Diélette et lui offrit une place. Mais celle-ci refusa en me regardant d'une façon si expressive que la fermière, comprenant qu'elle ne voulait pas être bien quand je serais mal, nous fit monter tous les deux. En couchant ainsi, tantôt dans une ferme, tantôt dans une briqueterie, tantôt dans une auberge, nous arrivâmes, marchant tous les jours tant que nous pouvions, jusqu'à un petit hameau après Bièvre, et qui n'est qu'à 3 lieues de Paris. Il était temps, nous n'avions plus que 11 sous. Les souliers de Diélette étaient en lambeaux. Elle avait un pied écorché qui la faisait terriblement souffrir toutes les fois qu'après un moment de repos, nous nous remettions en marche. Et nous étions si fatigués que nous levions les jambes comme si nous eussions traîné des semelles de plomb. Cependant, elle ne se plaignait pas. Et tous les matins, elle était la première prête à partir. Nos 11 sous ne nous permettait pas de coucher dans une auberge. Mais nous avions eu la chance de rencontrer à Saclay un carrier avec qui nous fîmes route et qui nous avait donné asile dans son écurie. « Il faut partir demain de bonne heure, » dit Diélette. « C'est la Sainte Eugénie et je veux arriver à temps pour souhaiter la fête à maman. Je lui donnerai mon Réséda. » Pauvre Réséda, il était bien dépouillé, déchiqueté, jauni. Mais enfin, il était encore à peu près vivant, et quelques brins plus vivaces témoignaient de ce qu'il avait été. Nous partîmes quand le carrier vint arranger ses chevaux, c'est-à-dire dès le petit matin. Le temps nous avait été jusque-là par miracle favorable, froid la nuit et beau le jour. Mais quand nous sortîmes de l'écurie, il nous sembla que le froid était devenu plus vif. Cependant, le ciel était couvert. Pas une seule étoile, et du côté de l'Orient, au lieu des belles teintes rouges et cuivrées auxquelles nous étions habitués depuis le commencement de notre voyage, de lourds nuages de couleur grise. Après cela, un vent du nord qui arrachait et entraînait les feuilles mortes. Parfois, elles arrivaient à notre rencontre en bataillons si pressés qu'elles semblaient vouloir nous barrer le chemin. Diélette avait grand-peine à maintenir sa cape sur le Réséda. Le jour se leva, mais sombre et livide.
Le soleil fait relâche, tant mieux. Il n'éclairera pas nos guenilles, dit Diolette, qui trouvait consolation à tout.
Sois tranquille, le ciel les lavera avant Paris.
Je croyais à la pluie, ce fut la neige qui nous arriva. D'abord, elle tomba en petits papillons qui passaient emportés par le vent. Puis bientôt, ces papillons grossirent et devinrent un essaim compact et serré. La bise nous les fouettait si rudement à la figure qu'ils nous aveuglaient. Nous avions fait à peine une lieue. Les bois de chaque côté bordaient la route. Il fallut y chercher un abri, car nulle part au loin nous n'apercevions de maison. Et malgré notre hâte d'arriver à Paris, il était impossible de marcher contre cette tempête neigeuse.
Des talus de fossés, surmontés de charmilles encore garnies de leurs feuilles séchées sur les branches, coupaient çà et là les bois. Nous nous blottîmes au pied d'un de ces talus. Il nous protégea assez longtemps, mais la neige, entraînée par les rafales, rasait la terre comme un nuage de poussière blanche, et elle ne s'arrêtait que lorsqu'elle rencontrait un obstacle. Bientôt, elle dépassa la crête du talus et elle retomba du côté où nous étions appuyés. Elle nous arrivait en tourbillon sur la tête et nous glissait dans le cou où elle fondait. Je voulus nous garantir au moyen de la couverture. Le vent l'eut bien vite roulé. Nos vêtements n'étaient plus que des loques. Ils nous protégèrent mal contre le froid. Je vis Diolette bleuir et elle commença à grelotter. Elle se serra contre moi, mais j'avais trop froid moi-même pour la réchauffer. La neige qui m'entrait en poussière dans le cou coulait en eau dans mes souliers. J'étais plus mouillé que si je m'étais jeté dans une rivière. Pendant 2 heures, il fallut rester dans cette position sans que le vent faiblît. La neige semblait ne pas tomber du ciel. Elle filait horizontalement, rapide comme des milliers de flèches blanches. Parfois il se faisait des remous et elle remontait en tournoyant. Diolette, cependant, n'avait pas abandonné son réséda. Elle le tenait serré contre elle, abrité sous sa cape. Mais la neige qui se glissait à travers ses vêtements pénétrait partout. Quand elle vit qu'elle s'était entassée sur la terre du pot où elle ne fondait pas, elle voulut me le donner. « Que veux-tu que j'en fasse? Tâche de me le sauver, je t'en prie !» Cela me fâchait de voir qu'elle se donnait tant de mal pour cette plante. Je haussai les épaules en lui montrant ses doigts roidis par le contact du pot. « Ah ! » dit-elle avec colère, « pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite de le jeter ?» Nous étions dans une situation où les querelles vont vite. Nous échangeâmes quelques paroles de colère, les premières entre nous. Puis, nous taisant tous les deux, nous nous mîmes à regarder droit devant nous la neige tomber. Mais bientôt, je sentis sa main qui cherchait la mienne. « Veux-tu que je le jette ? » dit-elle tristement. « Tu vois bien qu'il est mort. Ses feuilles sont noires et molles. » Elle ne répondit rien, mais je vis des larmes monter dans ses yeux. « Oh, maman, » dit-elle, « je ne lui apporterai donc rien ?»« Gardons-le, » lui dis-je, et je pris le pot. La neige tombait toujours, mais le vent se calmait. Insensiblement, il cessa tout à fait, et alors la neige se mit à s'épaissir en gros flocons. En peu d'instants, la terre fut recouverte d'un épais drap blanc qui nous montait aux jambes comme si la neige eût voulu nous ensevelir lentement dans ce linceul glacé. Cela dura plus d'une heure. Les arbres se courbaient sous la charge de la neige. Sur notre couverture, qui nous protégeait tant bien que mal, nous sentions un poids de plusieurs livres. Tassés l'un contre l'autre, nous ne bougions pas, nous ne parlions pas. Le froid nous avait paralysés, et je crois bien que ni l'un ni l'autre nous n'avions bien conscience du danger de notre position. Enfin, les flocons de neige devinrent plus petits, plus légers, et il y eut un arrêt. Le ciel était d'un noir d'ardoise. C'était la terre blanche qui l'éclairait. « Marchons, » dit Diolette. Nous regagnâmes la grande route. Nous enfoncions dans la neige jusqu'à mi-jambe. Il n'y avait, aussi loin que nous pouvions voir, ni voiture sur le chemin, ni paysans dans la plaine. Les seuls êtres vivants qu'on rencontra dans ce désert étaient des pies, qui, perchés sur les arbres des fossés, semblaient par leurs cris se moquer de nous quand nous passions devant elles. Après avoir traversé un village, nous arrivâmes au haut d'une côte et nous aperçûmes un nuage de fumée planant au-dessus d'une ville immense qui s'étalait confusément entre deux collines blanches. Un ronflement confus, quelque chose comme le murmure de la mer, arriva jusqu'à nous.
« C'est Paris !» dit Yelette.
Nous eûmes moins froid, nous nous sentîmes moins épuisés. Sur la route, on voyait des voitures qui se dirigeaient vers la ville. Mais nous n'étions pas encore arrivés, et quand nous fûmes descendus dans la plaine et que nous ne vîmes plus devant nous ce but tant désiré, la lassitude, l'épuisement nous revinrent. Nous glissions à chaque pas et nous n'avancions guère, nos vêtements mouillés fumaient sur notre corps. La neige de la route devint moins blanche, puis ce ne fut plus qu'une boue noire. Les voitures que nous croisions, ou qui nous dépassaient, se suivaient dans un continuel défilé. Les maisons succédaient aux maisons, et dans les champs, on apercevait çà et là de grandes roues noires avec des tas de pierres autour. Malgré son énergie, Diélette fut forcée de s'arrêter. La sueur lui coulait du front. Elle boitait très fort. Je balayai la neige qui couvrait un banc placé à la porte d'une maison, et elle s'assit. « Demande donc si nous en avons encore pour longtemps, » me dit-elle en voyant passer un charretier. « Où allez-vous ? » dit celui-ci lorsque je lui eus adressé cette question. « À la halle. »« Eh bien, vous en aurez au moins pour une heure et demie, grandement. »«
Jamais je ne pourrai, » dit-elle en entendant cette réponse.
Elle était livide. Ses yeux étaient éteints, elle haletait péniblement. Je fus obligé de la relever. Elle voulait rester sur ce banc où le froid nous avait déjà saisis. Je lui parlai de sa maman, elle retrouva du courage. Nous allions arriver, nous n'avions plus besoin de tous nos bagages. Je les abandonnai sur le banc et je lui dis de s'appuyer sur moi. Nous nous remîmes en marche. « Tu verras comme maman t'embrassera, » disait-elle. « Et puis, du bon bouillon, des gâteaux. Moi d'abord, je resterai couché 8 jours, sans me lever. » À la barrière, je demandai le chemin de la halle. On nous dit d'aller tout droit jusqu'à la rivière. Les rues de Paris étaient encore plus sales et plus glissantes que la grande route. Il y avait des gens qui s'arrêtaient pour nous regarder passer, au milieu de la foule et des voitures, ahuris, mouillés, crottés, déguenillés, nous devions avoir l'air de 2 oiseaux perdus. Diélette avait repris des forces dans l'espérance. Nous avancions encore assez vite. Arrivés à la Seine, on nous envoya au Pont Neuf, et, en allant tout droit, nous tombâmes sur Saint-Eustache. Quand nous aperçûmes le cadran doré, je sentis Diélette frissonner contre moi. « L'horloge !» dit-elle. « Voilà l'horloge !» Ce ne fut qu'un éclair de joie. « C'est bien l'horloge, pourtant, mais je ne retrouve pas la maison. » Nous fîmes le tour de l'église. « Nous nous sommes trompés. Ce n'est pas Saint-Eustache, » dit-elle. Je demandai de nouveau où nous étions. On me répondit « À Saint-Eustache. » Diélette avait les yeux égarés. Elle ne pouvait plus parler, elle bégayait. « Cherchons dans toutes les rues qui débouchent sur l'horloge, » lui dis-je. Elle se laissa conduire, mais elle n'avait plus cette ardeur qui, en arrivant, avait secoué sa fatigue. Elle ne reconnut aucune de ces rues. En face de l'église, il y avait un grand espace de terrain où les maisons étaient démolies et où des ouvriers travaillaient. « C'était là, » dit-elle en fondant en larmes, « là !»«
Demandons. »«
Quoi, le nom de la rue ? Je ne le sais pas. »« Le nom de maman ? Je ne le sais pas. »« Mais la maison,
je l'aurais si bien reconnu. »
De plus fort que nous n'aurait pas résisté à ce coup. Tant de fatigue, tant d'épreuves, une espérance si ferme. Nous restions contre l'église, nous regardant tous deux, hébétés, effarés, et la foule compacte en cet endroit nous coudoyait et nous poussait. Il y avait des passants qui s'arrêtaient pour examiner curieusement ces deux pauvres petits paquets de guenilles qui faisaient là une si étrange figure. Moi, profondément atteint dans mes espérances, moins épuisé surtout que Diélette, je retrouvai le premier le sentiment et, la prenant par le bras, je l'amenai dans un grand bâtiment couvert où étaient entassés des légumes de toutes sortes. Il y avait dans un coin des paniers vides. Je la fis asseoir sur un de ces paniers. Elle se laissait conduire comme une idiote. Je ne trouvais rien à lui dire et je la regardais. Elle avait pâli encore, ses lèvres étaient sans une goutte de sang et elle tremblait de tout son corps. « Tu as mal ?»«
Ah, maman !»
dit-elle, et sans qu'elle pleurât précisément, de grosses larmes se fixèrent dans le coin de ses yeux. Autour de nous, c'était un va-et-vient continuel, des gens criant, se disputant, vendant, achetant, apportant, emportant, le brouhaha, le tumulte, l'activité de la halle. On ne tarda pas à tourner autour de nous, à voir ces deux enfants si misérables dans leur costume, si pâles, si fatigués, dont l'un pleurait sans cesse. La curiosité s'éveilla. « Qu'est-ce que vous faites là ? » demanda une grosse femme. « Nous nous reposons ? On ne se repose pas ici ? » Sans rien répliquer, je pris Diélette par la main pour la faire lever et nous en aller. Où ? Je n'en savais rien. Mais elle me regarda avec une expression de lassitude et de découragement si éloquente que la grosse femme en eut pitié. « Tu vois bien qu'elle est trop fatiguée, » dit-elle. « N'as-tu pas honte de la faire marcher ?» De questions en questions, j'en vins à lui conter pourquoi nous étions là, c'est-à-dire que nous arrivions de loin pour trouver la mère de Diélette et que la maison était démolie. « En voilà une histoire !» fit-elle lorsque j'eus achevé ses explications. Et elle appela d'autres femmes qui vinrent nous entourer. « Alors, tu ne sais ni le nom de sa mère, ni le nom de la rue ?» me dit une femme lorsque j'eus recommencé mon récit. « Dites donc, vous autres, connaissez-vous ça, une lingère qui demeurait dans une des rues démolies ?» Ce fut alors une confusion de demandes, de réponses, d'explications, mais on n'arriva à rien de précis. Depuis 8 ans, comment retrouver un indice? Les rues étaient démolies depuis longtemps déjà. Des lingères, il y en avait par centaines. Laquelle était la mère de Diélette? Où demeurait-elle? Où la chercher? Le chaos. Pendant tous ces propos, Diélette avait pâli encore. Son tremblement avait augmenté. On entendait ses dents claquer. « Vous voyez bien que cette petite est gelée, » dit une des femmes. « Viens, mon petit cœur, tu vas te mettre sur ma chaufferette. » Elle nous fit entrer dans sa boutique, où 2 ou 3 femmes nous suivirent, tandis que les autres regagnaient leur étal en discutant. Elle ne se contenta pas de la chaufferette. Elle nous fit apporter 2 tasses de bouillon. Et quand elle nous eut réchauffés et réconfortés, elle me mit 20 sous dans la main. C'était beaucoup pour elle. Mais combien peu pour nous dans notre terrible situation? Où aller? Que faire maintenant? Pour moi, je n'avais qu'à continuer ma route jusqu'au Havre. Mais Diélette, elle sentait elle-même à quelle extrémité elle était réduite. Car lorsque nous nous retrouvâmes dans la rue, son premier mot fut « Où allons-nous ? » L'église était devant nous. La neige qui recommençait à voltiger dans l'air glacial rendait la rue inhabitable. « Là !» dis-je, montrant la porte de l'église. Nous entrâmes. Une bonne atmosphère chaude nous enveloppa. L'église était silencieuse, quelques rares personnes étaient seulement agenouillées dans les chapelles. Nous nous réfugiâmes dans la chapelle la plus sombre. « Mon Dieu ! Mon Dieu !» murmurait Diélette. « Écoute, » dis-je à voix basse, « puisque tu ne peux pas retrouver ta maman,
il faut que tu ailles trouver la mienne. »
« Oh, pour Dieu !»«
Oui, tu ne veux pas retourner chez la Pollande, n'est-ce pas ? Tu en as assez de la banque. Eh bien, il faut aller chez maman. Tu travailleras avec elle, elle t'apprendra son métier. Quand je reviendrai de la mer, je vous trouverai toutes les deux. Tu verras que maman t'aimera bien. Et puis, si tu es avec elle, je serai plus tranquille. Elle s'ennuiera moins. Si elle est malade, tu la soigneras. »
Diélette était la franchise même. Elle accepta avec une joie qui, mieux que toutes les paroles, montrait combien vivement elle sentait l'horreur de sa position. Et elle ne fit qu'une objection.
« Ta mère ne voudra pas de moi.
Pourquoi ?
Parce que j'ai été saltimbanque.
Eh bien, et moi je l'étais aussi.
Toi, ce n'est pas la même chose, » dit-elle tristement.
C'était beaucoup de savoir où aller. Mais ce n'était pas tout qu'un but. Il fallait y arriver. L'avenir nous paraissait assuré, mais le présent...
Je ne me rendais pas bien compte de la distance de Paris à Port-Dieu. Je savais seulement que c'était bien loin.
En abandonnant à Montrouge ce que nous portions, comme le navire qui jette sa cargaison à la mer pour s'alléger et ne pas couler bas, j'avais heureusement conservé ma carte routière. Je la tirai de ma poche et, la dépliant sur une chaise, je me mis à l'étudier. Je vis que, pour sortir de Paris, il fallait longer la Seine. C'était là l'essentiel pour le moment. Plus tard, j'étudierai le reste de la route. Mais comment la faire, cette route, quand nous n'avions pas de chaussures aux pieds, plus de vêtements sur le corps et 20 sous seulement dans notre poche? Comment l'entreprendre dans l'état de fatigue où nous étions, surtout avec Diélette qui, à chaque instant, semblait prête à défaillir? Elle pâlissait tout à coup, et tout à coup aussi elle rougissait. Le frisson ne la quittait pas. Comment nous exposer à passer la nuit dehors par ce froid et cette neige, quand le matin, en plein jour, nous avions de si peu échappé à la mort?
« Pourras-tu faire le chemin ? » dis-je à Diélette. « Je ne sais pas. En venant ici, je voyais ma maman, ça me donnait du cœur. Je ne vois pas la tienne. »
« Que faites-vous ici ? »
dit une voix derrière nous.
La carte était étalée sur la chaise. Il était bien évident qu'elle ne nous servait pas de livre de prière.
« Allons, vite, sortez !»
Il fallut obéir et marcher devant le Suisse qui grommelait entre ses dents. La neige ne tombait pas, mais le vent soufflait, il était glacial. Nous reprîmes la rue par laquelle nous étions arrivés. Diélette pouvait à peine se traîner. Pour moi, remis par le bouillon que j'avais avalé, excité surtout par l'inquiétude, je ne me sentais pas trop fatigué. Nous n'avions pas marché 10 minutes qu'elle s'arrêta.
« Je ne peux plus, » dit-elle. « Tu vois comme je tremble, le cœur me manque, j'ai mal dans ma poitrine. Je crois bien que je suis malade. »
Elle voulut s'asseoir sur une borne. Cependant, après quelques minutes de repos, elle se releva. Arrivés à la Seine, nous tournâmes à droite. Les quais étaient à perte de vue, couverts de neige et la blancheur de cette bordure rendait l'eau de la rivière presque noire. Les passants, enveloppés dans leurs manteaux, marchaient rapidement. Des enfants faisaient des glissades sur les trottoirs déserts.
« Est-ce loin ?» demanda Diélette.
« Quoi ?
Où nous allons coucher ?»«
Je ne sais pas. Marchons toujours ?»«
Mais je ne peux plus marcher. Tiens, Romain, abandonne-moi là. Laisse-moi mourir. Conduis-moi dans un coin. »
Je la pris par le bras.
Je voulais sortir de Paris.
Il me semblait que, dans la campagne, nous pourrions peut-être trouver une briqueterie, une maison abandonnée, une auberge, un refuge.
Tandis que dans les rues pleines de ce monde, où chacun passait en se dépêchant, où il y avait des sergents de ville qui vous regardaient d'une façon si dure, je me sentais perdu.
Nous marchâmes encore près d'un quart d'heure, mais sans avancer. C'est-à-dire que, si nous n'étions plus au milieu des maisons, nous nous trouvions pris d'un côté entre parapets,
de l'autre entre un mur immense dont on ne voyait pas le bout. Au-dessus de ce mur, il y avait des arbres poudrés de neige et des soldats qui montaient la garde. Violette, ne se soutenant plus, à vrai dire, je la portais. Malgré le froid, la sueur me coulait du front, autant de fatigue que d'inquiétude. Je sentais bien qu'elle était à bout de force, malade. Qu'allions-nous devenir? Violette m'abandonna le bras et s'assit, ou plutôt s'affaissa, sur le trottoir, dans la neige. Je voulus la relever, elle ne tint pas sur ses jambes, elle se laissa retomber. « C'est fini, » dit-elle faiblement. Je m'assis près d'elle et tâchai de lui faire comprendre qu'il fallait marcher encore. Elle était comme une chose inerte, ne me répondant pas, ne m'écoutant pas. Ses mains seules semblaient encore vivantes. Elles brûlaient comme des charbons. Au bout de quelques minutes, la peur commença à me prendre. Personne ne passait. Je me relevai pour regarder au loin, rien que ces deux lignes de pierre, et au milieu, la neige blanche. Je la priai, je la suppliai de se relever. Elle ne me répondit pas. Je voulus la porter. Elle se laissa faire. Mais au bout de quelques pas, je fus obligé de me reposer. Je ne pouvais pas. Elle se laissa glisser à terre. Je m'assis auprès d'elle. C'était fini. Il fallait mourir là. Sans doute, dans son accablement, elle avait conscience de notre position, car elle se pencha contre moi, et doucement, de ses lèvres glacées et tremblantes, elle m'embrassa. Cela me fit monter les larmes aux yeux, et mon cœur se serra. J'espérais cependant que les forces allaient lui revenir, et que nous pourrions continuer, mais elle ne fit pas un mouvement. Les yeux clos, elle se laissa aller contre moi. S'il n'avait pas été secoué par un tremblement saccadé, j'aurais cru qu'elle était morte. Deux ou trois passants, surpris de nous voir ainsi affaissés dans la neige, s'arrêtèrent indécis pour nous regarder, puis ils continuèrent leur chemin. Il fallait prendre parti. Je me décidai à demander secours à la première personne qui se présenterait. Ce fut un sergent de ville. Et lui-même m'interpella en me demandant pourquoi nous restions là. Je lui dis que ma petite sœur était malade et qu'elle ne pouvait plus marcher. Ce fut alors des questions et puis des questions. Quand je lui eus dit, c'était l'histoire que j'avais préparée, que nous allions chez mes parents au Port-Dieu, bien loin, au bord de la mer, que nous marchions depuis 10 jours, il ouvrit de grands yeux. « Allons, » dit-il, « cet enfant va mourir là, il faut venir au poste. » Mais Violette, de plus en plus faible, ne put pas se lever. Elle n'avait pas pu marcher quand je l'en priais, elle ne marcha pas davantage quand le sergent de ville l'ordonna. Alors il la prit dans ses bras et me dit de le suivre. Nous nous mîmes en route. Au bout de 5 minutes, il fut rejoint par un de ses camarades à qui il raconta ce que je lui avais dit. Celui-ci prit Violette à son tour, et bientôt nous arrivâmes devant une maison à la porte de laquelle était suspendue une lanterne rouge. Dans une grande salle, autour d'un poêle qui ronflait, il y avait plusieurs sergents de ville. Comme Violette ne pouvait pas répondre, ce fut moi qu'on interrogea. Je recommençai mon récit. « Je crois bien qu'elle est morte, » dit un des gens de police. « Non, mais elle ne vaut guère mieux. » Il faut la porter au bureau central. Et toi, me demanda le chef, qu'est-ce que tu vas faire? As-tu des moyens de subsistance? Je le regardai sans comprendre. As-tu de l'argent? J'ai 20 sous. Bon, tâche de filer ce soir. Si l'on te trouve dans les rues, tu seras arrêté. On déposa Violette sur une civière. On la roula dans des couvertures. On ferma sur elle les rideaux. Et 2 hommes l'emportèrent. J'étais abasourdi. Je ne pouvais pas croire qu'elle fût si malade. Je voulais savoir, et les gens de police qui menaçaient de m'arrêter s'ils me rencontraient dans la rue. Néanmoins, je les suivis. J'obtins 2 que je pourrais les suivre. Après avoir marché assez longtemps et traversé la Seine, ils s'arrêtèrent sur une place au fond de laquelle se dressait une grande et belle église. On me laissa entrer avec eux. Un monsieur en habit noir ouvrit les rideaux de la civière. Diélette était rouge comme un coquelicot. Il l'interrogea assez doucement. Je m'avançai et répondis pour elle, en recommençant pour la troisième fois mon récit. « Bien, » dit-il, « refroidissement, fatigue extrême, c'est une fluxion de poitrine. À Jésus. » Il écrivit quelques mots sur un papier et nous nous remîmes en marche. Sur la neige glissante, les porteurs avançaient difficilement. Quand ils se reposaient, je m'approchais de la civière et parlais à Diélette. Quelquefois, elle me répondait d'une voix dolente. D'autres fois, elle ne me répondait pas. Cette nouvelle course dura plus longtemps encore que la première. Enfin, dans une rue où les passants n'étaient pas nombreux, on s'arrêta devant une porte verte, puis on entra dans une pièce assez sombre. Des hommes en tablier blanc s'approchèrent. Diélette comprit sans doute, comme je le comprenais moi-même, que le moment de la séparation était venu. Elle écarta le rideau et, me regardant avec ses yeux qui étincelaient, « M'abandonnes-tu ? » me dit-elle. Je ne pensais qu'à Diélette, à son isolement. Je ne vis qu'elle, étendue sur cette misérable civière, et me suppliant. « Non, lui dis-je. » Elle eut à peine le temps de me remercier d'un regard, mais quel regard ! On l'enleva. Je restais stupide, anéanti, sans bouger de place. Quand le concierge me dit que je devais m'en aller. « Est-ce que je ne pourrais pas la voir ?»«
Si, le dimanche et le jeudi. »
Et la porte me fut poussée sur les talons. La nuit allait bientôt venir. Et déjà, dans quelques maisons, les lumières étaient allumées. La première question qui se posa devant moi fut de savoir où coucher. Quant à chercher comment vivre à Paris, en attendant que Diélette fût guérie, je m'en inquiéterai le lendemain. Je n'étais plus au temps où il me fallait un plan bien arrêté avec toutes les précautions prises. L'habitude de la misère présente rend assez insensible aux choses de l'avenir. Bien que tendu sur une seule idée, mon esprit ne trouvait pas de solution. Je ne savais pas que, dans cette grande ville, il y avait des milliers de misérables comme moi, qui, à cette même heure, ne savaient où ils coucheraient, et qui, cependant, trouvaient à coucher et peut-être à dîner. Élevé au champ, je ne trouvais que des moyens à la portée d'un paysan, une grange, une écurie, une meule de foin. Or, dans le quartier où je marchais, je ne voyais rien de tout cela, des maisons, des murs, et puis des maisons. J'avais tourné à droite, en sortant de l'hospice. À l'encoignure de la rue, je lus « Rue de Sèvres » et me trouvai sur un large boulevard planté de grands arbres. Où conduisait-il? Je n'en savais rien. Peu m'importait, puisque je n'avais pas de but. Autant cette route qu'une autre. J'allais lentement, car, épuisé de fatigue, je commençais à ne plus pouvoir me traîner. Mes pieds sans chaussures et plongés dans la neige depuis le matin étaient devenus insensibles comme s'ils eussent été morts. Sur la contre-allée du boulevard, des enfants avaient fait une glissade. Je m'arrêtai machinalement pour les regarder. Parmi ceux qui passaient devant moi, quelle ne fut pas ma surprise de trouver une figure connue. C'était un enfant nommé Biboche, que j'avais vu à Falaise, où il appartenait à la troupe Vignali. Sa baraque touchait celle de la Pollade et nous avions joué ensemble. Comme j'étais le seul spectateur, il me regarda et me reconnut. Il vint à moi. « Tiens, qu'est-ce que tu fais à Paris ? Est-ce que votre lion est arrivé ? J'irai voir Diélette. » Je lui dis que j'avais quitté la Pollade, que j'étais à Paris depuis le matin seulement et très embarrassé car je ne savais où coucher. Je ne parlais pas de Diélette, et je terminai en lui demandant s'il croyait que, dans sa troupe, on voulut m'engager. « Bien sûr qu'on voudra bien, si tu es bon zig. Es-tu bon zig ? Je ne me rendais pas bien compte des qualités qu'il fallait avoir pour être un bon zig. Cependant, comme je voyais un lit, je répondis que je croyais avoir ces qualités. « Alors, tape là, » dit Biboche.
« Et le patron ? » ?»«
Est-il l'offre ce môme-là ? C'est moi qui engage. Tu es de notre troupe. Je t'apprendrai à grinchir. »
Je ne connaissais pas cette langue nouvelle. Sans doute c'était des mots parisiens. Je ne voulais pas paraître trop étonné, bien que je fusse étrangement surpris de voir Biboche, qui n'avait pas 11 ans, et qui était gros comme un furet, chef de troupe.
« Tu as froid ?» dit Biboche, voyant que je tremblais. « Eh bien, viens te réchauffer. »
Il me conduisit chez un marchand de vin, où il me fit boire un verre de vin chaud.
« Maintenant que te voilà réparé, en route pour souper. »
Au lieu de nous diriger vers le centre de Paris qui était à notre droite, nous tournâmes à gauche et pendant longtemps nous marchâmes dans des rues où il n'y avait que de rares passants et où les maisons avaient un aspect malpropre et pauvre.
Biboche vit ma surprise. « As-tu cru que je t'offrais l'hospitalité aux Tuileries ?» dit-il en riant.
Ce ne fut point en effet aux Tuileries qu'il me conduisit, mais dans une plaine. La nuit était tout à fait tombée, mais avec elle n'était pas venue une complète obscurité. Nous quittâmes la route et prîmes à travers champs dans un sentier frayé. Au bord d'une excavation, Biboche s'arrêta. « C'est ici, » dit-il, « donne-moi la main et prends garde de tomber. » Nous descendîmes dans une espèce de carrière, puis, après quelques détours au milieu de quartiers de roches, nous entrâmes dans une galerie sous terre. Biboche tira de sa poche un rat de cave et l'alluma. J'étais de plus en plus étonné.
« Encore une minute, » dit-il, « et nous arrivons. »
En effet, presque aussitôt, j'aperçus une lueur rouge qui éclairait la carrière. C'était un brasier de charbon. Auprès était étendu un enfant de l'âge de Biboche.
« Encore personne ?» demanda celui-ci.
« Non. »«
C'est bon. Voilà un ami. Tâche de lui trouver des souliers. Il en a besoin. »
L'enfant s'éloigna et revint presque aussitôt avec une provision de chaussures. C'était à croire que j'étais dans une boutique de cordonnier.
« Choisis, » dit Biboche. « Et si tu as l'habitude des chaussettes, ne te gêne pas, on va t'en donner. Tu n'as qu'à demander. »
Je ne saurais dire quel bien-être j'éprouvais lorsque mes pieds endoloris et glacés se réchauffèrent dans de bonnes chaussettes de laine et dans des souliers tout neufs. J'achevais de me chausser quand 2 autres enfants arrivèrent, puis un troisième, puis un quatrième, puis 3 autres encore. En tout, 9.
Biboche me présenta. « C'est un ami que j'ai connu dans la banque, » dit-il.
« C'est un bon zig.
Et vous autres, allons, qu'est-ce qu'on a fait ?»
Chacun, alors, vida ses poches autour du brasier. L'un apportait un jambon, un autre des bouteilles. Il y en eut un qui tira de sa poche une petite bouteille avec un biberon en argent. Il y eut dans la troupe une exclamation générale, des rires, des moqueries.
« C'est bon, » dit Biboche, « il boira dedans. »
Tout le monde s'assit au bord du brasier, non sur des chaises, mais simplement par terre. Biboche me fit les honneurs du souper et je fus servi le premier. Il y avait longtemps que je n'avais vu pareille abondance, et je dois même dire que ni à la maison ni chez M. de Biorel, je n'avais jamais pris part à un pareil festin. Après le jambon, on entama une dinde froide. Et après la dinde, un pâté de foie gras. J'avais une si belle faim que je fis l'admiration de la troupe.
« Ah, la bonne heure !» dit Biboche, résumant l'impression de tous. « C'est plaisir d'inviter des amis qui te tortillent comme ça. »
Mais la nourriture, la chaleur et surtout la fatigue ne tardèrent pas à m'alourdir.
« Tu as sommeil ?» dit Biboche, en voyant que mes yeux se fermaient.
« Ne te gêne pas. Je regrette de n'avoir ni pieux ni galettes à t'offrir. » Mais tu dormiras bien tout de même, n'est-ce pas ?
À quoi un pieu et une galette pouvaient-ils m'être utiles pour me coucher ?
Je n'osais pas le demander. C'était encore là, sans doute, des mots distingués
qui n'ont pas cours en province. « Un verre de punch, » dit Biboche, « et bonne nuit. »
Je refusai le verre de punch, ce qui parut étonner considérablement la société, et je demandai à Biboche de me dire où je pouvais me coucher.
« Je vais te conduire. »
En effet, il alluma une chandelle au brasier, et, passant devant moi, il me mena dans une galerie latérale de la carrière. Il y avait une épaisse couche de paille par terre, et dessus deux ou trois couvertures de laine. «
Dors bien, » dit-il, « demain nous causerons. »
Et il me laissa en emportant la chandelle. Je n'étais pas trop rassuré dans cette carrière, dont mes yeux ne pouvaient pas sonder la profondeur. En même temps, j'étais très intrigué de savoir ce qu'étaient mes nouveaux camarades. Ces poches pleines, le jambon, le biberon, tout cela me semblait louche. Mais mon accablement était tel que la fatigue l'emporta sur l'inquiétude. À peine roulé dans ma couverture, le sommeil me prit. « Nous causerons demain, » avait dit Biboche. Le lendemain, il serait temps de s'expliquer. J'avais un abri, j'avais bien soupé. La journée avait été assez rude pour ne pas la prolonger. Je m'endormis sans être troublé par les cris de la troupe et j'entendais boire et rire à quelques pas de moi. Le lendemain, ce fut Biboche qui m'éveilla, car sans lui, j'aurais probablement dormi 24 heures. « Tiens, » dit-il, « voilà des frusques, habille-toi. » Je me débarrassai de mes haillons et j'endossai les vêtements qu'il avait jetés sur la paille. Il se composait d'un pantalon et d'une veste taillée dans une bonne laine épaisse et douce. Une faible lueur blanche tombait de la voûte. C'était le jour qui filtrait difficilement jusqu'à cette profondeur. « Mon bonhomme, » dit Biboche pendant que je procédais à ma toilette, « j'ai pensé à toi, et voici ce que j'ai trouvé. Tu n'es pas malin dans le métier, n'est-ce pas ?»«
Pas trop. » »«
Je m'en doutais, ça se voit tout de suite. » Si tu voulais, sans apprentissage, travailler comme nous, il t'arriverait malheur. Pour empêcher cela, je vais te mettre avec un bon garçon, et tu lui serviras de raton.
Malgré mon désir de ne pas me déshonorer en montrant que je n'étais pas au courant de la langue parisienne, il m'était impossible de laisser passer ce mot sans explication. Puisque je devais être un raton, je devais avant tout savoir ce que c'était.
« Es-tu habillé ?» dit Biboche en voyant que je le regardais.
« Oui. »«
Eh bien, nous allons déjeuner et je te conduirai après chez mon ami. » Je le suivis. Le brasier était éteint et il ne restait aucune trace du festin de la veille. Le jour, un peu plus vif, parce que nous étions plus rapprochés de l'ouverture, laissait voir seulement deux piliers qui soutenaient la voûte et, çà et là, des amas de pierre. Dans un creux de la paroi, Biboche prit une bouteille, du pain et un débris de jambon.
« Cassons une croûte, » dit-il, « nous déjeunerons chez ton nouveau patron. »
Je pris mon courage à deux mains. « Ne te moque pas de moi, » lui dis-je, « tu sais, je ne suis pas de Paris. Explique-moi donc ce que c'est qu'un raton. » Cette demande le mit dans une telle gaieté qu'il faillit s'étouffer en riant.
« Sont-ils lofs dans ton pays ?» dit-il.
« Eh bien, mon bonhomme, un raton est un môme, autrement dit, un enfant comme toi et moi, pas trop lourd et alerte. Tu ne sais peut-être pas non plus comment beaucoup de marchands ferment leurs boutiques pendant qu'ils sont à manger dans leur cuisine. »
Bien que ne comprenant nullement quel rapport pouvait exister entre ces deux idées, je répondis que je ne savais pas en effet comment les marchands fermaient leurs boutiques.
Après une petite barrière basse, poursuivit Biboche, me passant la bouteille de vin qu'il avait vidée à moitié. Cette barrière est retenue par un ressort qui correspond à une sonnette. Si quelqu'un entre, il faut qu'il pousse la barrière. Alors la sonnette sonne, et le marchand qui est bien tranquille dans son arrière-boutique ou dans sa cuisine vient voir qui est là. Devines-tu maintenant à quoi sert le raton ?
Pas du tout,
à moins qu'il ne soit chargé de remplacer la sonnette.
Biboche retomba dans un accès de rire qui, cette fois, l'étouffa bel et bien. Quand il eut fini de tousser, il m'allongea une bonne taloche.
« Si tu en dis encore de pareil, fit-il, préviens-moi, tu me ferais mourir. »
Au lieu de remplacer la sonnette, le raton est chargé de l'empêcher de sonner.
Pour cela, on le passe par-dessus la barrière. Il va sans bruit et en rampant au tiroir, enlève la caisse, la donne à celui qui est en dehors, celui-ci le reprend au bout des bras, le fait repasser par-dessus la barrière, et voilà, le marchand est rincé sans le savoir.
Ça te va-t-il ?
J'étais abasourdi.
Mais c'est volé, ça !
Eh bien !
Mais tu es donc un voleur, toi ?
Eh bien, et toi, tu es donc un imbécile ?
Je restais sans répondre. Je pensais à ce que j'avais vu la veille et me disais que Biboche avait bien raison de m'appeler imbécile. Cependant, il fallait se décider.
Écoute, lui dis-je, si tu as compté sur moi pour cela, tu t'es trompé.
Cette fois, il n'éclata pas de rire. Mais il entra dans une colère furieuse. Je l'avais trompé. S'il me laissait partir, je le dénoncerais.
Eh bien non, s'écria-t-il, tu ne me dénonceras pas et tu ne partiras pas d'ici.
Je partirai.
Avant que j'eusse pu en dire davantage, il s'élança sur moi. Mais s'il était plus souple et plus alerte, j'étais plus fort. La lutte ne fut pas longue. Après le premier moment de surprise où il m'avait renversé, je pris le dessus et, le maintenant sous moi,
« Veux-tu me laisser partir ?
Me vendras-tu ?
Non,
jure-le,
je le jure. »
Je me relevai. « Tu sais que tu n'es qu'un imbécile, » dit-il avec rage.
« Un vrai imbécile. Tu verras si tu vivras avec ton honnêteté. Si tu ne m'avais pas rencontré hier, tu serais mort aujourd'hui. Et si tu es encore vivant, c'est parce que tu as mangé du jambon volé, c'est parce que tu as bu du vin volé. Si tu n'as pas les pieds gelés, c'est parce que je t'ai donné des souliers volés. Si tu ne meurs pas de froid en sortant d'ici, ce sera parce que tu auras sur le dos des habits volés. »
Ces vêtements si bons et si chauds, je n'y pensais plus, tant je me trouvais bien dedans.
« Veux-tu me donner la chandelle ? » lui dis-je.
« Pourquoi ? »
« Pour aller reprendre mes vieux habits. »
« Je ne te reproche pas cela, je te les donne. »
« Oui, mais je ne veux pas les garder. »
Il me suivit en haussant les épaules dans la galerie où j'avais passé la nuit. Je défis les vêtements qu'il m'avait donnés et repris mes guenilles humides. Ce ne fut pas, je vous l'assure, une agréable sensation. Quand je voulus mettre mes vieux souliers, je m'aperçus qu'il y en avait un qui était entièrement décousu. Biboche me regardait sans parler. Je voulus me détourner car j'étais honteux de ma misère.
« Pour être un imbécile, dit-il d'une voix douce, tu en es un.
Mais ce que tu fais là, vois-tu, ça me remue là. »
Il se frappa sur la poitrine.
« C'est donc bien bon de se sentir honnête ?
Pourquoi n'essaies-tu pas ?
Il est trop tard.
Si tu es arrêté, condamné, qu'est-ce que dira ta mère ?
Ma mère ! Ah, si j'en avais une ! Tiens, ne me parle pas de ça. »
Et comme je voulais l'interrompre,
« Vas-tu prêcher ? » s'écria-t-il. « Laisse-moi tranquille. Seulement, je ne veux pas que tu t'en ailles comme ça, puisque tu ne veux pas de ces vêtements parce qu'ils sont volés. Veux-tu accepter ce que j'avais quand je travaillais à Falaise ? Je les ai bien gagnés, ceux-là. Prends-les si tu as du cœur. »
Je répondis que j'acceptais.
« Bien, continua-t-il avec une évidente satisfaction. « Sortons ensemble, je vais te les donner. »
Nous rentrâmes à Paris, et il me conduisit dans une maison garnie qui était située auprès de la barrière. Il me fit monter dans une chambre et tira d'une armoire une veste et un pantalon que je me rappelais très bien lui avoir vu à Falaise. Il me donna aussi des souliers qui, sans être neufs, étaient encore bons. « Maintenant, adieu, » dit-il. Quand je fus habillé. Si tu rencontres les camarades, aie soin de ne pas les reconnaître. Il n'était pas encore 10 heures. J'avais toute la journée pour trouver comment coucher la nuit prochaine. Le temps était au sec, chaudement vêtu, bien chaussé, l'estomac rempli.
je n'étais pas trop tourmenté de cette difficulté, cependant considérable, de trouver un logis dans Paris. Je ne pouvais aller voir Diélette. Je me mis à marcher tout droit devant moi. Peut-être le hasard me viendrait-il en aide. Mais après 2 heures, je n'avais rien trouvé, rien imaginé. Et cependant, j'avais traversé les quartiers les plus différents. Je me dis alors qu'il était plus sage de venir moi-même en aide au hasard, et je me dirigeais vers la Seine. Mon intention était d'aller à la halle. Peut-être la brave femme qui m'avait donné 20 sous pourrait-elle me faire travailler, ou du moins m'indiquer chez qui je pouvais demander du travail. Tout d'abord, elle ne me reconnut pas dans les habits de biboche. Puis, quand je lui eus rappelé qui j'étais, elle me demanda ce que j'avais fait de ma sœur. Je lui contai ce qui s'était passé la veille, et je vis qu'elle était touchée. Alors je lui dis que je ne voulais pas abandonner Diélette à Paris, que je voulais attendre qu'elle fût guérie, mais que pour cela il fallait travailler, que je ne savais pas à qui m'adresser, et que j'avais espéré...
Tu as pensé à t'adresser à la mère Berceau, interrompit-elle, et tu as bien fait, mon garçon, ça me flatte, vois-tu, que tu aies reconnu sur ma figure que je n'étais pas une femme à laisser mourir un enfant sur le pavé. On n'est pas riche, mais on se sent.
Elle appela 2 ou 3 de ses voisines et l'on tint conseil pour savoir à quoi l'on pouvait m'employer. Ce qui était assez difficile, car à la halle, ce n'est pas l'usage que les enfants travaillent. Enfin, après de longues discussions, après qu'on m'eût fait subir 10 interrogatoires, lorsqu'il fut reconnu que je savais bien écrire, on décida à l'unanimité que je serais employé aux écritures de la criée, si toutefois l'on pouvait m'y trouver une place. Je n'assistai pas à ces démarches qui, me dit-on, furent laborieuses. Tout ce que je sais, c'est que le lendemain matin, à 5 heures, on m'installa derrière un pupitre à la criée du poisson, et je fus chargé de copier de petits bulletins. Rien n'était plus facile, j'écrivais vite et lisiblement. Quand Madame Berceau vint voir si l'on était satisfait de mon travail, on lui répondit que cela irait très bien et que je pouvais compter sur 30 sous par jour. Ce n'était pas une fortune, mais comme Madame Berceau me donnait à coucher dans son magasin, c'était plus qu'il ne me fallait pour ma nourriture. Diélette était entrée à l'hôpital le lundi. J'attendis avec grande impatience le jeudi, et quand j'eus fini mon travail à la criée, je me dirigeai vers la rue de Sèvres. On m'avait donné à la halle une cargaison d'oranges, et mes poches étaient pleines. L'inquiétude me poussait. J'arrivai avant l'ouverture des portes. Comment était-elle? Vivante? Morte?
Lorsqu'on m'eut indiqué la salle Saint-Charles, je me mis à courir. Mais un infirmier m'arrêta et me dit que, si je faisais du tapage, on me renverrait immédiatement. Je me mis à marcher sur la pointe des pieds. Diélette était vivante et déjà mieux. Jamais je n'oublierai l'expression de ses yeux quand elle me vit. « Je savais bien que tu viendrais, » dit-elle, « si tu n'étais pas mort de froid. » Elle me fit lui raconter comment j'avais vécu depuis notre séparation. Quand je lui eus raconté l'épisode de la carrière, « Bien, » me dit-elle, « bien, mon frère. » Elle ne m'avait jamais appelé son frère. « Embrasse-moi, » me dit-elle, en me montrant sa joue. Quand elle apprit ce qu'avait fait pour moi la mère Berceau, « Ah, la brave femme !» dit-elle, et ses yeux se remplirent de larmes. Puis ensuite, ce fut à elle de me répondre. Elle avait été bien malade, sans connaissance, avec la fièvre et le délire. Mais elle était bien soignée. Il y avait une sœur qui était très bonne pour elle. « Mais c'est égal, » me dit-elle tout bas, « je voudrais bien m'en aller, parce que j'ai peur. La nuit dernière, une petite fille est morte, là, dans le lit à côté. Et quand on l'a mise dans la boîte chocolat, je me suis évanouie. »
Diélette se trompait dans son espérance de quitter bientôt l'hôpital. Elle avait été si rudement atteinte que la convalescence fut très longue. Elle resta plus de 2 mois à Jésus.
Au reste, ce fut pour nous un bonheur. Pendant ce temps, elle se fit aimer de ceux qui la soignaient, de la sœur, du médecin et des internes, qu'elle séduisit par sa gentillesse. Tout le monde savait de notre histoire tout ce que nous avions cru pouvoir en raconter, et l'intérêt qu'elle inspirait rejaillissait sur moi. Quand je venais le dimanche et le jeudi, on me recevait comme si j'avais été un ami. Enfin, son bulletin de sortie fut signé, et en le lui remettant, le médecin et la sœur lui annoncèrent qu'ils avaient pris leurs mesures pour que nous ne fussions pas obligés de retourner à pied à Port-Dieu. On avait trouvé un meneur de nourrice qui voulait bien nous recevoir dans sa voiture et qui nous conduirait à Vire. À Vire, le meneur paierait notre place dans la voiture publique jusqu'au Port-Dieu. On avait fait une collecte dans la salle Saint-Charles et l'on avait réuni 25 francs, ce qui était plus que suffisant. Moi-même, pendant ces 2 mois et en vue de notre voyage que je ne savais pas devoir être si facile, j'avais économisé 6 ou 8 sous par jour, ce qui me faisait une somme totale de 22 francs. Quelle différence entre notre arrivée à Paris 2 mois auparavant et notre départ. La bonne Madame Berceau voulut nous reconduire elle-même à la voiture et elle nous chargea de provisions de toutes sortes. Ce n'est pas un véhicule bien confortable qu'une voiture pour les nourrices. 2 banquettes en planche dans le sens de la longueur, de la paille au milieu, voilà tout. Mais pour nous, c'était admirable. On était à la fin de janvier, le temps n'était pas trop froid, ce fut un voyage très agréable, nous n'étions point des délicats, et nous fîmes bon ménage avec les nourrices qui retournaient au pays chargées de leurs poupons. Quand ils criaient trop fort, ou bien quand on procédait à leur toilette, nous descendions et nous faisions un petit bout de route à pied. À Vire, le meneur nous emballa dans la diligence qui nous descendit à 1 lieue du Port-Dieu. C'était un dimanche. Il y avait juste 7 mois que j'étais parti. Nous fîmes quelques centaines de pas sans parler ni l'un ni l'autre, car tous deux nous étions embarrassés. Ce fut Diélette qui, la première, rompit ce silence gênant. « Allons moins vite, » dit-elle, « je voudrais te parler. » La glace était rompue. « Moi aussi, j'ai à te parler. Tiens, voilà une lettre que tu donneras à maman en entrant. » « Pourquoi une lettre ? » dit-elle doucement. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? Pourquoi ne me conduis-tu pas à ta mère ? Comment sais-tu si elle voudra de moi ? Si elle me renvoie, qu'est-ce que je deviendrai ? Ne dis pas ça, tu ne connais pas maman. Si, je la connais bien. Mais tu ne sais pas si elle me pardonnera de ne pas t'avoir retenu. Est-ce qu'elle pourra jamais croire que, si je t'avais bien prié, tu serais parti ? Quoi, tu auras bien voulu m'emmener jusqu'ici et tu n'auras pas voulu entrer chez elle pour l'embrasser ? Ce n'est pas naturel, ça. C'est justement ce que je lui explique dans ma lettre. Je lui dis que, si je continue ma route sans la voir, c'est parce que je sens bien que, si je la voyais, je ne partirais pas. Alors, si je ne partais pas, il faudrait retourner chez mon oncle. Il y a un contrat, et mon oncle n'est pas un homme à abandonner ses droits. Ta maman trouverait peut-être un moyen de ne pas te laisser partir. Si maman résistait à mon oncle, c'est elle qui paierait pour moi, tandis que si je suis embarqué, il ne pourra rien contre elle, et quand je reviendrai, il ne pourra rien non plus contre moi, parce qu'un marin inscrit appartient au gouvernement, et que le gouvernement est plus fort que mon oncle. J'ai bien pensé à tout cela, va. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas toutes ces affaires du gouvernement, mais je sens bien que ce que tu fais là, c'est mal. Je n'étais pas assez ferme dans ma conscience pour entendre sans colère ce mot que moi-même je m'étais dit tant de fois. C'est mal ? Oui, c'est mal. Et si ta maman t'accuse, si elle dit que tu ne l'aimes pas,
Je ne pourrai pas te défendre puisque je penserai comme elle. »
Je marchais près de Dielette un moment sans répondre. J'étais ému, ébranlé, bien près de céder. Cependant, je me roidis. «
Et j'étais méchant pour toi ? » dis-je.
« Non, jamais.
Crois-tu que je puisse l'être pour d'autres ?»
Elle me regarda.
« Réponds. »
« Non.
Crois-tu que je n'aime pas maman ? Crois-tu que je veuille la faire souffrir ?»
Elle espérait m'avoir vaincu. Elle vit que je me défendais. Elle ne répondit pas. Alors je poursuivis.
« Eh bien, si tu m'as un peu de reconnaissance, si tu crois que je ne suis pas méchant, ne me parle plus ainsi. Tu me déciderais peut-être à rester et ce serait notre malheur à tous. »
Elle n'ajouta pas une seule parole et nous marchâmes côte à côte en silence, tous deux émus et troublés. J'avais pris un chemin à travers la lande où j'étais presque certain de ne rencontrer personne. Nous arrivâmes ainsi jusqu'au fossé qui servait de limite à notre cour. J'avais entendu sonner la sortie de la messe. Ma mère devait être rentrée. « C'est là, » dis-je à Dielette, en lui montrant par-dessus les ajoncs la maison où j'avais vécu si heureux, si aimé. Elle sentit mon émotion au tremblement de ma voix.
« Romain, » me dit-elle.
Mais je feignis de ne pas comprendre ce qu'il y avait de supplication dans ce seul mot.
« Tu vas descendre, » lui dis-je vivement. « En entrant, tu tendras la lettre à maman et tu lui diras « Voici une lettre de votre fils. Tu verras, quand elle l'aura lue, qu'elle ne te repoussera pas. Dans 6 mois, je reviendrai, je vous écrirai du Havre. Adieu. »
Je voulus m'enfuir, mais elle se jeta sur moi.
« Ne me retiens pas, laisse-moi, tu vois bien que tu me fais pleurer. »
Elle desserra les mains.
« Ne veux-tu pas que je l'embrasse pour toi ?»
J'avais déjà fait quelques pas en arrière. Je revins et, lui passant le bras autour du cou, je l'embrassai. Je sentis ses larmes couler sur mes joues. Si je ne me sauvais pas, je ne partirais assurément point. Je me dégageai et, sans me retourner, je me mis à courir. Mais au bout du chemin, je m'arrêtai et revins en rampant me blottir dans les ajoncs. Dielette, après avoir descendu la cour, entrait dans la maison. Longtemps, elle y resta. Je ne voyais, je n'entendais rien. L'inquiétude m'étranglait. Si maman n'était plus là, si, comme la mère de Dielette, elle était...
Au moment où cette sinistre pensée se présentait à mon esprit, Dielette parut sur le seuil, puis, presque aussitôt, derrière elle, ma mère. Elle était vivante. Dielette était près d'elle, la main dans sa main. Toutes les deux avaient les yeux rouges. Je me jetai à bas du fossé. 3 heures après, je montai sous la bâche de la diligence et en 2 jours, par Caen et Honfleur, j'arrivais au Havre. Il restait 7 francs dans ma bourse.